Voilà, bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi, ses invités du jeudi, on va dire, puisqu'on reçoit deux invités. Myriam Corneli, qui a écrit un livre qui s'appelle Notre puissance de femme, un chemin de l'aube de la féminité à être en couple, tout un programme. Et puis Gilles Domenech, alors lui, on l'a déjà reçu plusieurs fois, qui est dans les engrais verts, là, mais qui nous a beaucoup parlé de jardin. Un peu avant, donc on les reçoit tous les deux, on les retrouve dans quelques secondes.
When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my heat dear? So there's not a trace of red on the sidewalk.
Voilà, bien tout de suite, on va les retrouver et on va commencer. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude, c'est les dames qu'on passe en premier, mais non. Là, c'est Gilles Domenech qui est avec nous. Donc, Gilles et Myriam, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gilles, ton dernier livre, c'est Guide des engrais verts au jardin, enrichir naturellement son sol grâce aux couverts végétaux. Alors là, c'est tout un programme, il faut nous expliquer là.
Absolument. Donc en fait, l'idée, c'est que au jardin, donc on a classiquement des cultures qu'on vise à récolter, et on peut aussi implanter d'autres cultures, mais qui vont plutôt servir à améliorer le sol. Qui vont pas servir à, on va pas viser de récolter ces plantes-là, on va viser d'améliorer le sol avec, hein, d'améliorer de différentes manières, soit parce que en grandissant, elles créent de la matière organique qu'on va ramener ensuite au sol, parce que leurs racines vont aérer le sol, parce que certaines plantes éventuellement vont, par exemple, capter les excès de nitrates qu'on va avoir dans le sol à l'automne, d'autres au contraire vont plutôt au printemps capter l'azote de l'air, etc. Donc on va avoir plein de propriétés différentes qui vont se jouer et qui vont faire que pendant les périodes où on ne cultive pas, donc en un laps de temps entre deux cultures, on va implanter ces engrais verts pour améliorer le sol.
Alors bon, alors les engrais verts, c'est qu'il y en a beaucoup quand même. C'est quoi les engrais verts? Enfin, c'est ça surtout.
Voilà, les engrais verts, c'est ça. Donc c'est vraiment cet ensemble de plantes qui vont pas forcément nous intéresser pour récolter. Encore qu'il y en a certaines, on va voir, qui peuvent être aussi récoltables. Mais globalement, quand on implante un engrais vert, on ne cherche pas à le récolter. Là, on a plein de plantes. Ce qui va nous faire sélectionner, choisir des plantes pour faire un engrais vert, ça va être déjà la saison à laquelle on est. Voilà, est-ce qu'on a une plante qui est capable, là, si on veut implanter là en septembre, est-ce qu'on veut une plante qui va occuper pendant l'automne, par exemple, et qui ensuite va geler pendant l'hiver, ou est-ce qu'on veut au contraire une plante qui va passer l'hiver pour aller jusqu'au printemps suivant? Donc il y a les différentes possibilités. Hein. Donc on va choisir des plantes en fonction de ça. Et après, les plantes, on va les retrouver dans trois grandes familles botaniques. On va voir essentiellement tout ce qui est céréales, voilà, la famille des graminées, donc celle-là, voilà, on va avoir pas mal de plantes de cette famille-là, aussi bien des céréales d'hiver comme du seigle, de l'avoine, de l'orge, que des céréales d'été comme du sorgho ou du mil par exemple. Et on va avoir beaucoup de légumineuses, hein, donc la famille du haricot, tout ça. Donc là, on va avoir notamment de la févrole, qui est la cousine fourragère de la veste. On va avoir souvent des plantes fourragères, en fait, hein, du pois fourrager. Pois fourrager qui, au passage, peut être cultivé comme un petit pois, si on veut le récolter. Des différentes vestes, voilà, on va avoir différentes, des lupins, voilà, on va avoir toute une série, des trèfles aussi, bien sûr, tous les trèfles. On a différentes sortes de trèfles qui peuvent s'adapter à différentes sortes de cycles. Et la famille des choux, donc les crucifères, donc là où on va surtout avoir des moutardes, de la navette fourragère, du colza essentiellement, et des radis. Hein, des radis, notamment le radis chinois qui lui peut être tout à fait comestible également. Voilà, donc on peut avoir ces trois grandes familles et quelques plantes venant d'autres familles, donc par exemple des tournesols, par exemple du sarrasin, de la facélie, etc.
Oui, mais alors comment on fait pour qu'ils servent d'engrais? C'est ça que je
Alors, le, comprendre. Voilà, le problème, c'est un peu le problème de ce terme engrais vert. Effectivement, engrais vert, il faut le prendre au sens étymologique et non pas au sens moderne du terme engrais. Étymologiquement, un engrais, c'est ce qui va engraisser la terre, donc ce qui va nourrir la terre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mot engrais a évolué et signifie ce qui va fertiliser pour faire pousser des plantes. Et effectivement, ça ne correspond pas du tout à cette définition-là. On n'a pas du tout affaire à un engrais, hein, clairement non. Ce n'est pas un engrais au sens, je dirais, légal du terme.
Voilà. Voilà.
Effectivement, ce terme d'engrais vert, je ne sais plus d'où il vient exactement historiquement, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est plus, ça correspond plus à ce qu'on appelle un amendement. Donc un amendement, c'est quelque chose qu'on amène au sol pour le modifier, pour l'enrichir, pour enrichir. Quand on amène un fumier, par exemple, on dit qu'on amende le sol. Là, effectivement, les engrais verts, ils amendent le sol plus qu'ils ne sont un fertilisant, clairement. Même, ils ne sont pas du tout un fertilisant.
Oui, là, on comprend mieux. Donc, ça veut dire quand même que c'est très bon pour la terre, puis ça lui permet d'être plus fertile. En fait, si on plante quelque chose après, c'est mieux.
C'est ça l'idée, effectivement. C'est vraiment d'améliorer la terre sur laquelle on va implanter ça.
Et alors, par rapport au compost, qu'est-ce que ça a à voir ?
Alors, l'action n'est pas la même. Alors, le compost, déjà, on amène quelque chose qui va être très transformé, déjà. Donc, l'essentiel des sucres, des matières organiques qui sont très faciles à consommer par la vie du sol sont déjà consommées. Donc, on amène quelque chose de beaucoup plus stable. On va dire, entre guillemets, un humus, une sorte d'humus. Voilà. Le terme d'humus est en train de disparaître de la littérature scientifique. Donc, voilà, parce que je suis aussi un peu je suis de très, très près ce qui se passe dans la recherche scientifique. Voilà, donc... C'est pour ça que le terme d'humus, qui est encore très très populaire, est en train de disparaître du vocabulaire scientifique. Mais l'idée, c'est en tout cas derrière humus, c'est-à-dire une matière fortement transformée. Donc effectivement, elle va quand même un peu nourrir la vie du sol, mais beaucoup moins que si on amenait des résidus d'un engrais vert. Donc l'action va être différente en fait. Donc le compost va avoir une action souvent à plus long terme. Et va effectivement participer aussi à aérer le sol, mais pas de la même manière. Voilà, il va aussi participer, il va amener une matière qui va améliorer un peu la porosité du sol en surface, par exemple. Mais il va pas du tout agir comme un engrais vert, qui va surtout agir de son vivant par ses racines et après destruction par la matière qui va se décomposer dessus. Et c'est une matière fraîche. Donc il y a une action très très différente d'un sol décomposé. Donc quelque part c'est complémentaire. On peut tout à fait utiliser les deux dans un même potager.
Alors, ce qui veut dire que là, on élimine totalement les engrais chimiques.
Alors, oui et non, parce qu'en soi, alors effectivement, pour moi, au potager, il n'y a aucune raison d'utiliser des engrais chimiques. Honnêtement, voilà, pour moi, un potager, il doit être bio. Hein, un engrais chimique, surtout pour tout ce qui est azoté, on a un engrais gratuit sous la main qu'on produit tous les jours, chacun au moins 2-3 litres par jour d'urine.
J'allais vous en parler.
Qui est un excellent engrais. Donc, pourquoi aller acheter des engrais chimiques dans le commerce ? Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je suis peut-être un peu caricatural, parce qu'il n'y a pas que l'azote qui est amené par les engrais chimiques. Mais effectivement, voilà. Et puis même pour le reste, pour le phosphore, pour le potassium, on a des solutions. On peut amener de la cendre, on peut amener différents éléments, différentes matières naturelles qui permettent d'enrichir le sol, de fertiliser plutôt avec ces éléments-là.
Alors justement, là, moi j'ai découvert ça aussi parce que je suis tombé sur une émission où il parlait de l'urine qui collectait. Et alors, bon, après, bien sûr, elle est traitée, hein, c'est pas mis directement. Mais apparemment, c'est un bon fertilisant.
Absolument. Tout à fait. On travaille de plus en plus dessus. Mais de toute façon, ici même, il y en a l'association de Géotrupe, hein, avec Florent Brun, notamment, qui est très actif sur cette thématique-là. Quoi. Donc, effectivement, c'est pour moi quelque chose de très important, en effet. C'est un débat de société qui doit émerger tôt ou tard, de toute façon, sur le fait d'arrêter de polluer l'eau avec nos déjections et plutôt de les récupérer pour venir fertiliser les champs et les jardins d'abord, c'est plus facile, mais pourquoi pas les champs après à plus grande échelle.
Oui, puis on peut dire que là, c'est facile quand même. Hein.
C'est facile à première vue, mais ouais. Là, au niveau logistique, c'est compliqué.
D'accord.
C'est ça, hein, imaginez qu'on doive récolter, bon, ça pourrait se faire de rassembler toutes les urines, de craponnes, déjà c'est certaines logistiques déjà de faire ça, il faudra modifier tous les services de collecte des eaux usées, il y a une grosse modification à faire, et puis après il faudra l'acheminer sur les parcelles agricoles. Alors c'est vrai qu'à Craponne, elles sont pas très loin, ouais. Ça c'est l'avantage, si on est dans le centre-ville de Lyon, elles sont plus loin. Ouais. Mais justement, à Lyon, effectivement, comme tu dis, Myriam, effectivement, il y a des initiatives. Ouais. Alors, c'est très localisé, c'est sur les bords du Rhône, il y a des urinoirs où on récupère les urines, et après, ça part dans des parcelles agricoles aux environs de Lyon.
Oui, mais alors, elles ne sont pas mises directement. Alors, apparemment, il y a un traitement, non ?
Alors, il y a plein de manières différentes de faire.
D'accord.
Il y a plein de manières différentes de faire. Hein. On peut très bien le mettre directement si vous faites pipi dans votre jardin. Ça marche très bien. Voilà. L'avantage, c'est qu'il y a zéro logistique, c'est très pratique. Après, il y a des manières très simples, simplement de la faire reposer. Je crois que c'est les préconisations de la FAO, de la faire reposer pendant, je n'ai plus la durée en tête, mais pendant quelques semaines, mois, dans un récipient fermé. Voilà, avant de l'épandre, ça peut être après. Après, il y a plein de traitements industriels. Voilà, donc là, je renvoie plutôt vers Florent Brun et vers le projet Okapi. Là, voilà, pour avoir plus de détails là-dessus. Hein, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais voilà. Mais effectivement, il y a éventuellement des traitements.
Oui, donc apparemment, oui, ça a l'air d'un peu les gens, enfin les chercheurs y travaillent, hein, parce que on essaye un peu de sauver notre planète. C'est pas facile, mais ça, c'est un petit bout. Hein, mais si tout le monde fait quelque chose dans ce sens, ça peut améliorer quand même, non ?
C'est sûr que tout le monde fait quelque chose, mais bon, là, on voit que voilà, là, bon, c'est un peu l'idée de la part du colibri, hein, qui a été, voilà, qui a beaucoup été popularisé par les réseaux de Pierre Rabhi dans les années, à partir des années 2000. Mais aujourd'hui, quand on voit l'été qu'on vient de passer, la part du colibri, elle va plus suffire. Hein. Malheureusement, c'est ouais, il faut toujours le faire, mais malheureusement, là, il faut faire la part du colibri à l'échelle des États et à l'échelle des... À l'échelle supranationale, même, hein, voilà.
Et alors, même si quand même, on voit que l'agriculture évolue doucement, mais évolue, on voit de plus en plus de gens qui parlent, ce que j'appelle, moi, l'agriculture raisonnée, parce que qui laissent un peu de côté, ben, on développe, on a 100 vaches, 150, 200. Non, on fait plus court et on fait des circuits courts, en fait. Et on en voit de plus en plus qui raisonnent comme ça. Et j'ai vu une émission sur un... C'était un agriculteur allemand, il me semble, ou non, je ne me rappelle plus, et qui, lui, avec... Il avait très peu d'espace, hein, peut-être 1 hectare, 2 hectares, je ne sais plus, hein, et il disait qu'il pouvait très bien en vivre et que même il arrivait à prendre des vacances, alors ce qui était extraordinaire. Donc, comme quoi, ça existe.
Bien sûr, mais je dirais, l'agriculture, il y a plein de mouvances au sein de l'agriculture. Voilà, quand on dit les agriculteurs comme un bloc monolithique, non, c'est absolument faux. Hein, c'est clair que l'agriculture, aujourd'hui, on a plein de tendances. Alors, on parle beaucoup de l'agriculture biologique, dans laquelle on a déjà aussi plusieurs tendances, mais on a aussi l'agriculture de conservation, par exemple. L'agriculture de conservation qui, elle, par contre, vise plutôt à réduire le travail du sol. Voilà, c'est plus, elle part sur le travail du sol, alors que l'agriculture est partie sur la chimie, enfin sur l'agriculture. L'agriculture bio part sur le fait d'enlever la chimie. L'agriculture de conservation part sur le fait de détruire, de supprimer, voire au moins réduire, voire supprimer le travail du sol. Et justement, je parle d'agriculture bio et agriculture de conservation. Dans les deux cas, ils sont assez intéressés par ces histoires d'engrais verts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais engrais, est-ce que c'est contradictoire ? Non, c'est pas contradictoire, parce que, alors effectivement, les bio qui vont implanter des engrais verts, eux, ils n'utilisent pas d'engrais chimiques, puisque c'est dans leur cahier des charges. Ceux qui sont en agriculture de conservation, qui beaucoup implantent des engrais verts, même encore plus qu'en bio, c'est vraiment, ça fait partie des piliers du système dans leur mode de penser l'agriculture. Eux, par contre, ils ne sont pas en bio. Donc, effectivement, on peut tout à fait avoir de la fertilisation chimique dans leur système. Donc, c'est pour ça, c'est deux choses différentes. On peut implanter des engrais verts et être en bio. C'est pas quelque chose. L'un n'implique pas l'autre.
Oui, c'est pas contradictoire.
C'est pas contradictoire, voilà.
Oui, alors donc on est. Alors là, par contre, parce que moi, je suis un novice là-dedans. Oui, je connais rien. Moi, je jardine pas parce que j'ai pas le temps. Puis c'est pas mon truc. Hein. Chacun son truc. Moi, je le dis franchement.
C'est ça.
Et oui, alors donc quand on a justement pris ces plantes qui vont faire de l'engrais, une fois qu'elles ont poussé, on les élimine et on plante dans le terrain.
C'est l'idée. Alors effectivement, pour les éliminer, comme tu dis, il y a plusieurs manières. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on va les détruire. On va les laisser se faire détruire par l'hiver. Par exemple, si on implante maintenant, en tout cas pour nous ici, on commence à avoir de l'humidité en plaine, c'est peut-être pas évident, mais là on peut sans problème implanter maintenant. Hein. Si on implante par exemple un radis, si on implante un sarrasin, si on implante une moutarde, ça va pousser très fort à l'automne, parce que là en plus l'automne c'est une période. Même s'il commence à faire froid, les sols sont encore chauds, ils sont très riches en nitrates, donc ce qui fait qu'il y a de quoi, parce que ça pousse très fort, et ça va ensuite, à l'arrivée, après quand on a les grands froids, en décembre, janvier, tout ça va geler, donc là la destruction elle se fait toute seule. Effectivement, si on est sur des plantes qui passent l'hiver, on arrive jusqu'au printemps, là effectivement il va falloir les détruire. Donc l'idéalement, si on peut, c'est les attendre qu'elles aient fleuri, c'est plus facile de détruire une plante qui a fleuri. C'est assez facile à faire sur tout ce qui est légumineuses, sur tout ce qui est crucifères. Dès qu'on arrive sur les graminées, notamment les céréales d'hiver, c'est beaucoup plus compliqué. parce qu'elles fleurissent très tard. Souvent un seigle, ça ne va pas être avant début juin chez nous. Donc c'est, voilà, ça fleurit très tard. Et puis même quand ça a fleuri, ça a tendance à repartir aussi sec. Donc c'est plus compliqué à détruire. Alors après, il y a différentes manières de détruire. On peut faucher, on peut broyer. Et si jamais on n'est pas sûr de la destruction, ou si on a besoin de faire un semis, on peut travailler un peu le sol pour enfouir un peu tout ça. Ou si on a trop de matière sur le sol, pourquoi pas l'enlever, la mettre sur une parcelle où ça ne gêne pas, juste à côté, et travailler un peu le sol pour faire un semis. C'est tout à fait possible également.
Ouais, alors justement, puisqu'on parlait de travailler la terre, ça m'est revenu dans la tête. Il y a des agriculteurs qui ne labourent plus.
Tout à fait.
Comme quoi, je connais un peu quand même. Et qui passe juste... alors à peine, ils tournent légèrement la terre et ils ont trouvé que c'était beaucoup mieux.
Alors voilà, effectivement, donc ça, c'est justement ça qu'on appelle l'agriculture de conservation, hein, voilà, que j'évoquais juste avant. C'est justement ça. Donc effectivement, c'est l'idée, donc souvent on appelle ça le non-labour. Mais après, on va avoir toutes sortes d'intermédiaires entre quelqu'un qui va faire un labour, qui va labourer classiquement. Encore que le labour aussi, il faut distinguer plein de types de labours différents, c'est, voilà, c'est pas si simple que ça, hein. Et quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle du semi-direct. Semi-direct, effectivement, lui, il ne va pas du tout toucher au sol entre la récolte et le semi-sûr. Il ne va pas du tout toucher au sol, il va juste semer en direct là-dessus. Donc il y a des semoirs spéciaux capables de rentrer dans des sols un peu denses et qui vont juste déposer la graine correctement là-dedans, c'est tout ce qu'ils vont faire. Après, entre ces deux extrêmes-là, on a plein de façons de gérer. Il y a des gens qui vont quand même faire un travail profond, par exemple en décompactant. Et c'est souvent nécessaire d'ailleurs. Typiquement ici, on est sur des sols qui ont une certaine texture, hein, disons souvent sablo-argilo-limoneuse, des textures comme ça, donc qui sont très sensibles au tassement. Hein, nous, sur le plateau de Craponne, c'est ça qu'on a. Sur les sols granitiques, on a ça. Donc très sensibles au tassement, ça veut dire qu'un agriculteur qui veut faire du non-labour, il a intérêt à être très très vigilant là-dessus. Et je pense qu'il serait très compliqué d'éviter de passer au moins une fois tous les deux ans, je dirais, un coup de décompacteur. Ça sera difficile à éviter dans une région comme ici.
Et alors pourquoi on dit que Craponne, c'est une terre pour les pommes de terre? Est-ce qu'il y a une raison ou pas, ou si c'est,
Alors, déjà, il y a le climat, je pense. Le climat, quand même, assez favorable. Voilà, on a de l'eau pendant l'été, souvent, normalement. Cette année, c'était moins évident, malheureusement. Mais voilà, on a régulièrement des orages d'été, donc ça veut dire que sans irrigation, on peut avoir des cultures de pommes de terre tout à fait correctes. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas en plaine, où les étés sont beaucoup plus secs la plupart du temps. Et puis après, alors, je ne sais pas quelles sont les exigences particulières de la pomme de terre. Est-ce que les sols granitiques, ou le fait que ce soit le sol légèrement acide, est-ce que ça leur convient plus particulièrement? Peut-être, c'est possible. Je ne saurais pas répondre avec certitude.
Alors moi juste... au ressenti, puisque des fois, quand j'ai des amis qui viennent, je leur fais des plats au four. Ils me disent, mais t'as pris tes pommes de terre. Alors, eux, ils arrivent à voir la différence. Alors, ben, je dis à Craponne, hein, oui. Très loin. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est... Donc, il y a bien quand même quelque chose, parce qu'ils arrivent à faire la différence entre les pommes de terre qu'ils achètent alors, à droite, à gauche. Donc, c'est pour ça que... Ben, puis on voit que la fête de la pomme de terre marche très bien.
Ça. C'est ça. Voilà. Absolument.
Donc, guide des engrais verts au jardin, il est disponible, hein, bien sûr.
Bien sûr, oui, il est disponible.
Alors, sur votre site, comment ça marche?
Alors, effectivement, on le trouve sur donc on a une boutique en ligne, enfin, qui est tenue par Myriam.
On va en parler tout à l'heure.
Ouais, j'en parlais. Donc, effectivement, où on vend toutes sortes de semences d'engrais verts. On a vraiment, une des plus grosses gammes en France de semences d'engrais verts. Effectivement, on trouve aussi mon livre mes différents livres, en tout cas ceux qui sont encore disponibles,
oui.
Parce que j'en ai écrit 4, là, les deux derniers sont disponibles, et puis aussi le livre de Myriam dont on va parler après, on peut aussi le commander là. Après, alors, pour le mien, en tout cas, il peut se commander dans n'importe quelle librairie.
Oui, d'accord.
Voilà. Même s'il n'est pas en rayon, voilà, c'est des distributeurs, c'est les éditions de Terran, donc c'est distribué par je ne sais pas trop qui, mais voilà, en tout cas, ça se trouve sans difficulté.
Non, ils ne l'ont pas mis là, mais bon. Ah. Oui, mais bon, ici, on a une librairie qui marche bien, la maison de la presse, donc je pense qu'on les retrouvera sous peu. D'ailleurs, j'en ai vu quelques-uns, des premiers, donc je pense que maintenant, on retrouvera les autres. Alors, on va faire une petite pause musicale, parce qu'on a bien parlé, on n'a pas oublié Myriam. On va faire une petite pause musicale, ça, c'est pour les auditeurs, parce que c'est vrai que quand on écoute... on aime bien avoir une petite respiration, c'est ce que je dis. Et alors, j'ai choisi, puisqu'on reste dans les jardins, hein, j'ai choisi un titre de Henri Salvador, que vous devez connaître, et qui est magnifique, c'est « Le jardin d'hiver », hein, qui est qui est une belle, qui est une très belle chanson, donc qu'on va écouter tout de suite.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Voilà, donc après Henri Salvador et son jardin d'hiver, eh bien, on va retrouver maintenant Myriam Corneli. Alors, le titre de son livre, Notre puissance de femme, un chemin de l'aube de la féminité à être en couple. Oula, c'est tout un programme, ça, Myriam.
Oui. Oui, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais apporter en livre. Et donc, la forme de ce livre est particulière. J'ai cherché d'abord une forme qui parle aux femmes enceintes, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas trop au mental, donc sous forme poétique et avec beaucoup de photos. Il y en a presque à toutes les pages. Et j'ai cherché aussi qu'est-ce que je peux déjà apporter de concret. Et donc, il y a 7 chapitres. À chaque fin de chapitre, il y a une proposition corporelle très courte. Je nous invite à mettre de l'huile, à respirer, etc. Voilà, pour déjà, avec mon livre, même si je ne suis pas en live avec les personnes, pouvoir leur offrir quelque chose de concret.
C'est une difficulté d'être en couple, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais vivre à deux, c'est pas aussi évident que ça.
Effectivement, dans les propositions que je peux faire et qu'actuellement je commence à mettre en place, et que s'il y a des endroits où il y a des gens motivés, c'est tout à fait possible, soit à deux, soit en petit groupe, je peux proposer des outils relationnels notamment. Et ça se recoupe avec mes autres activités, notamment liées à la danse, donc ça se recoupe avec le consentement, la connexion à l'autre. Le respect, il y a des notions qui sont plus, on va dire, techniques, de dialoguer avec un cadre qui aide à garder de la qualité, ce qui n'est pas toujours évident quand on ne se sent pas bien. Comment écouter l'autre alors que j'ai besoin d'être écoutée, des choses comme ça. Je pense notamment au dialogue imago que je partage régulièrement et que je vais encore d'apprendre des choses sur le dialogue imago moi aussi pour m'améliorer, nous améliorer. Et par ailleurs d'autres outils relationnels qui sont plus concrets, c'est-à-dire des petits jeux corporels qui mettent en lumière différentes choses. Et après quelques jeux, on peut en parler, voir qu'est-ce que ça nous fait. Ça invite à mettre plus de qualité aussi. Et aussi, quand ça va mal, quand il y a de la crise dans la relation, plutôt passer par le concret plutôt que le verbal. C'est une autre possibilité. Les deux sont complémentaires. Voilà. Et ça, c'est des choses qui me tiennent bien à cœur.
Ça tient quand même de la psychologie, là.
Alors effectivement, j'ai une formation de thérapeute, de psychothérapeute, on pourrait dire, où il y a différents aspects. Il y a l'aspect, effectivement, comme vous dites, psychologique, nous on appelle ça mental, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, avec notamment le langage conscient. C'est sûr que si je parle en jeu, je ressens ça, c'est pas pareil que dire tu fais ceci, etc. Donc déjà ça c'est une première étape. Et en psychologie, en tout cas dans certains endroits, on dit pour construire une relation, un nous, N-O-U-S, il faut un je et un tu. Si on parle de on, c'est la fusion, la confusion, on ne sait plus qui on est, c'est le cas de le dire. Alors que si je parle de moi, je sais qui je suis, ce n'est pas un on indéfini. Et si l'autre a un vécu très différent du mien et qu'il dit on, c'est comme s'il m'embarquait dans son vécu et que moi, la première fois, je vais le reprendre, mais si je suis très dans l'émotion, je peux le vivre très mal et réagir très fort. Voilà, donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est l'émotionnel. Justement, j'ai appris à accompagner des choses au niveau émotionnel et aussi peu à peu nous rendre autonomes. Donc, arrêter de déverser nos émotions sur les autres, mais comment les canaliser, ce qui est tout un art, je dirais. Voilà. Et encore un autre aspect, c'est le physique. Donc, on en revient, je parlais des jeux corporels, mais il peut y avoir aussi du massage. Je peux aussi accompagner pour que dans le couple, il y ait des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, ou mettre des mots sur des situations qui ne sont pas forcément faciles pour les améliorer. Donc, par exemple, exprimer nos besoins, savoir différencier nos besoins de nos envies, de nos désirs, ce n'est pas la même chose tout ça, de ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, des choses comme ça. Et donc j'ai plein de choses que je peux partager. Voilà. Et donc j'ai eu des possibilités, mais qui ne sont pas beaucoup faites, mais que j'ai fait quelques fois, d'animer des groupes de parole, donc autour des relations amoureuses, et en même temps, sur le même laps de temps, disons en début d'après-midi et en fin d'après-midi, de pouvoir animer des outils relationnels. Voilà.
Ouais, alors, c'est un programme chargé, hein, quand même. Hein. Alors, on parlait de la danse, alors, j'ai eu la chance de vous voir danser. Hein, ouais. Et alors c'est vrai que la danse, on sait que ça apporte beaucoup, hein, parce que c'est une expression du corps, et ça aide dans ces cas-là.
Eh bien, si je prends l'exemple avec Gilles, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Donc c'est, je dirais, notre première connivence. Et puis plutôt que se poser plein de questions, comment je vais aborder cette personne, comment je vais la draguer, si on prend du langage très courant, là on se pose pas tant de questions. On sent, ça passe pas, ça fait oui, ça fait non, j'ai envie d'être avec cette personne, de passer du temps, de danser toutes les danses de couple avec cette personne toute la soirée, par exemple, ce qui nous est arrivé le premier soir. Bon, pas toutes, mais presque toutes, voilà. Et je sais pas comment dire, retrouver les yeux de l'autre qui pétillent, parce que on me dit bien, le quotidien peut être un tue-l'amour. Et donc, comment survivre à ce quotidien, à être parent aussi. Parce que quand on devient parent, y a d'autres enjeux qui apparaissent. Y a aussi des choses qui peuvent se passer ou ne plus se passer dans la sexualité, dans l'intimité. Et pouvoir poser des mots dessus. La particularité de mes cercles, c'est qu'ils sont mixtes. Je ne veux pas mettre les hommes de côté. Il y a beaucoup de cercles de femmes, il y a de plus en plus de cercles d'hommes. Pour moi, ça n'a du sens que s'il y a cercle d'hommes et cercle de femmes en parallèle pour se retrouver et en parler ensemble. S'il n'y a pas les cercles mixtes, pour moi, ça me dérange. Bon, sachant qu'il y a aussi les histoires de est-ce qu'on se sent homme, est-ce qu'on se sent femme, je ne mets pas de côté ça, c'est juste que moi, ce à quoi je suis confrontée, c'est plutôt ça. Voilà. Et sachant qu'il y a aussi, et j'ai essayé d'en tenir compte, mais c'est pas forcément évident dans mon livre, de s'adresser aux parents solo, notamment aux femmes
ça, il faut
qui
y penser,
font
oui.
ce choix, ou qui ne font pas ce choix, mais que ça leur tombe dessus, que il se trouve des fois, le père les laisse tomber, c'est quand même une situation récurrente au fil des siècles, des millénaires peut-être, voilà. Et donc j'ai essayé de m'adresser aussi aux hommes dans mon livre, c'est un gros challenge, hein, franchement, essayer de s'adresser à toutes les situations possibles, imaginables. Je dis pas que je l'ai relevé, mais j'ai eu cette intention-là, en tout cas. Et j'ai eu des très beaux témoignages d'hommes, très souvent, notamment, je pense aux fausses couches, où ils sont totalement mis de côté, évacués, ou alors aux avortements, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, les interruptions de grossesse, etc. Donc tout ça, c'est des sujets très larges, on va dire, que moi, j'aime bien aborder dans un groupe que j'avais appelé « Et si nous en parlions ?». Donc là, c'est vraiment autour de la naissance, et mon but à moi, dans ce groupe-là, c'est de dire arrêtez de raconter aux femmes enceintes tout ce qui va pas, ça va les mettre dans la peur et ça va être encore pire pour la naissance. Donc c'était arriver à apporter une bulle d'air de pouvoir, et pour les femmes enceintes, agir en indirect, et pour ceux qui ont besoin de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer dans un lieu bienveillant où on puisse dire ce qu'on a envie de dire autour de ces sujets-là, qui sont quand même des choses qui nous touchent profondément, et que si on n'a pas un lieu bienveillant où on se sent bien, on ne peut pas aborder ces sujets.
Et alors, bon, vous parliez des femmes qui sont abandonnées, mais l'inverse existe aussi. Hein. Une femme qui s'en va, et les gamins, ils restent avec le papa.
Ça arrive aussi, effectivement. C'est
pas facile non plus. Hein.
Effectivement. Il y a toutes sortes de situations. Il se trouve que je lis beaucoup. Et effectivement, c'est foisonnant, on va dire. Et comment, on parlait du colibri tout à l'heure, comment j'ai le sentiment avec mon métier d'apporter ma pierre, mais en même temps j'ai trop le sentiment que les gens ne savent pas que ça existe. Alors j'ai dû transformer le nom de mon métier, c'est accompagnante autour de la naissance, parce que moi je suis thérapeute, et on parle souvent des doulas, est-ce que je suis doula? Non, je ne suis pas doula, les doulas ne sont pas thérapeutes, et accompagnante de naissance maintenant veut dire doula, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans, voilà, puisque ça fait quand même plus de 20 ans que j'exerce ce métier. Avec les gens qui... Le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux, mais ça fait pas très longtemps que je suis ici.
Oui, c'est vrai que le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Alors, pour revenir juste à l'histoire de la danse, parce que vous dites, c'est exact. Bon, moi, je suis d'une génération où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Mais nous, quand on allait danser, il y avait des slow. Bon. Et les slow, c'était un rapport... Déjà, quand vous invitiez une fille, ou elle vous disait oui, ou elle disait non. Donc c'était classé, enfin c'était classé pas forcément, mais quand on dansait, ben, il y avait des sensations quand même. Hein. Ce que vous disiez, c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça que maintenant les jeunes, j'arrive pas bien à comprendre tout là, parce que c'est difficile d'aborder une fille, hein, des fois, hein, pour pas aller lui dire. Déjà quand elle vous dit oui pour danser, dans un contact, bon ben, il y a quelque chose qui se crée déjà. Bon après, arrive ce qui arrive, mais je veux dire, ben, je trouve que c'est un petit peu dommage, moi, enfin, c'est mon avis.
Après, nous nous sommes vus dans le contexte du bal trad, de la danse folk, alors pour moi c'est synonyme. C'est quand même un milieu qui est assez ouvert d'esprit, très différent par exemple du rock, de la salsa, où on danse vraiment assez avec ceux qu'on connaît. Alors que là, il y a quand même des danses progressives qui permettent de voir un peu tout le monde et de se dire « Ah bah tiens, j'ai bien aimé danser avec telle personne, j'ai envie de redanser avec ». C'est aussi un des buts de ces danses-là. Mais c'est très variable, on est en Auvergne et il peut y avoir des danses, enfin des bals plutôt, où il n'y a quasiment que des bourrées et pas de danse collective. Moi qui danse depuis très longtemps, je trouve que ça manque pour faire groupe, parce que quelque part, nous sommes une communauté de danseurs, nous nous retrouvons un peu toujours les mêmes. Mais si nous ne nous voyons pas vraiment par deux, c'est pas pareil, on est un peu dans nos bulles et c'est moins facile d'inviter en fait ceux qu'on ne connaît pas. Et moins facile aussi de dire oui à quelqu'un que je ne connais pas, tout dépendant comment je me sens avec. Et donc, avec Gilles, nous nous sommes posé la question comment remédier à ça. Et on s'est dit, ah bah tiens, la bourrée de temps où on peut faire des figures à 6, donc à 3 couples, mais pas forcément en couple, enfin 3 fois 2, quoi, ou 2 fois 3, enfin voilà. Et ben on en refait pour remplacer ces danses collectives, pour pouvoir plus rencontrer les autres. Et on voit que ça fait une petite différence. Voilà, ça permet aussi. C'est un milieu très ouvert où on peut discuter avec ceux qu'on ne connaît pas. Et ils ne vont pas s'offusquer, on n'est pas dans la rue. Encore que dans la rue, si on est souriant, je vois que les gens, ils aiment bien discuter. Enfin, je m'arrête pas tout le temps, mais voilà, c'est... les gens ont besoin d'humains. Et je crois que c'est le cœur vraiment de mon livre, c'est ça. Et pour la naissance, pour revenir vraiment à la naissance proprement dite, ce serait tellement bien si on pouvait choisir les deux. Et l'humain, et si besoin, le médical, mais pas avoir choisir l'un ou l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment pour moi le cœur, c'est être complémentaire. Je ne suis pas contre les sages-femmes, je suis avec les sages-femmes, je suis avec les médecins, je tente de faire équipe, même si je ne les connais pas. Et si eux voulaient bien faire équipe avec moi, je pense que vraiment nous pourrions œuvrer vers des plus belles naissances.
Oui, alors ce que vous disiez, le sourire, c'est vrai, souvent, moi, c'est vrai que je souris beaucoup. Hein. Les gens disent, mais t'as toujours le sourire. Je dis, mais ça sert à quoi de faire la gueule, hein? À rien? Non. Non, mais c'est vrai, je trouve que... Et ce que vous disiez, c'est vrai, déjà, c'est plus facile d'avoir une approche de quelqu'un si on lui sourit. Hein, des fois, on voit des gens tristes dans la rue, alors on ne sait pas pourquoi, hein, mais je trouve qu'un sourire, ça coûte rien et ça fait du bien. Hein. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Alors, ouais, vous parliez de naissance, vous parliez de maternité. Alors, moi, j'ai eu qu'une fille, mais ma femme a été, pendant ses 9 mois de grossesse, je ne l'ai jamais sentie aussi bien. Jamais elle a été malade, jamais rien. Donc, comme quoi.
C'est hein, chouette.
Parfois, ouais, c'est chouette, hein, parfois. Donc, vous voyez, comme quoi. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a l'enfant désiré. Alors, maintenant, c'est plus facile. Puis, il y a l'enfant pas désiré. Alors, c'est peut-être là où c'est plus compliqué dans un couple aussi, non?
C'est là que je trouve très intéressant le dialogue. Parce qu'il y a les évidences de l'un, les évidences de l'autre. Et. Ben, moi, ça m'est arrivé, hein. Je peux parler de mon histoire plus facilement, c'est celle que je connais le mieux. Mais voilà, ayant eu, comme beaucoup de femmes, une première fausse couche assez jeune, et il faut savoir qu'avec toutes les pollutions qu'il y a, c'est très rare qu'une femme enfante d'un enfant vivant sans avoir eu une fausse couche avant. Je pense que c'est important qu'elle le sache. Et ça peut être plus ou moins traumatisant selon les personnes, selon qu'est-ce qu'elle a perçu, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son corps, qu'est-ce qu'elle a vu ou pas. Est-ce qu'elle a pu en parler ou pas? Enfin voilà, c'est assez chargé. On sort quand même de beaucoup de tabous à ce sujet-là. Il y a des livres qui sont sortis sur le sujet. Mon préféré, vous parliez du nom désiré, c'est le nom désiré de Daniel Meroy, qui parle vraiment de ce que vivrait, c'est une hypothèse, hein, l'âme qui s'incarne dans ce corps seulement pour peu de temps, quelques semaines, quelques mois, ou beaucoup de mois. Voilà. Et comment c'est possible d'être quand même en lien avec cet être qui est dans le corps, même si on ne veut pas parler d'âme, juste ce bébé qui est là, tout petit. Et bah, ma dernière fausse couche, c'était à 5 semaines, j'ai eu l'impression d'être enceinte de 3 mois. Voilà. Mais c'est vraiment, est-ce que je m'autorise ce lien et de me dire, bah, ok, c'est comme ça, tu pars, bah, tu pars. J'essaye d'accepter, c'est pas facile, mais je peux garder ce lien. Et pour moi, je suis maman de tous ces enfants-là que j'ai portés, même s'ils ne sont pas restés. Voilà. Et j'ose en parler sans m'y attarder pour pas alourdir, voilà, parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude. Mais il se trouve que j'ai eu 2 fausses couches avant mon premier enfant vivant. À la deuxième, c'était très clair pour moi, c'était hors de question de porter 3 fois la mort dans mon corps. Je voulais porter la vie. Et j'étais en désir d'enfant depuis 2 mois. Pardon, 2 ans. 2 ans, c'est long. Et c'était pas forcément avec le père. Et on n'a pas réussi à avoir de dialogue avec le père parce que c'était pas une situation stable, émotionnelle. A priori, on pensait pas rester ensemble, on pensait pas avoir d'enfants ensemble. Oui, mais on s'est trouvés parents ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Seulement, si on n'en a pas dialogué avant, eh ben, c'est pas évident. Voilà, donc ça a fait plein de trucs que je vous décris pas. Oui, un émotionnel très rude, et pour lui, et pour moi. Et je pense que pour l'enfant à venir, c'était pas évident. Voilà, ça fait certaines énergies pas faciles. Et ben, je m'en suis servie après. Pour mon deuxième, je me suis dépêchée d'en parler alors que la relation était toute neuve. Je me suis dit, je suis à nouveau en désir d'enfant depuis longtemps, j'en parle. Voilà. Et j'ai fait le choix d'être responsable d'en parler. Et je pense que c'est tous à chacun, nous, hommes ou femmes, nous sommes tous des humains, de pouvoir être responsable, de dire, ben, j'en parle. J'attends pas parce que l'autre il peut pas deviner que j'ai eu je sais pas quelle blessure liée à la sexualité quand j'étais enfant et que ça me pollue ma sexualité, mon intimité. Et l'autre il peut pas le deviner. Voilà. Il peut sentir qu'il y a des blocages, il peut sentir qu'il y a des choses que j'ai pas envie, des réticences ou inversement. Voilà. Tout ça. Mais si on n'ose pas dire, peut-être pas forcément à chaud, mais quand voilà, quand c'est redescendu, quand on est posé tranquille, de pouvoir ouais, comment mettre de la douceur, de la bienveillance et des mots, et il y a un jeu de mots, hein. On dit les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X, et mettre des mots sur nos mots peut permettre déjà de se libérer, même si c'est pas forcément avec un psy, un thérapeute, etc.
Très bien, bien, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, c'est bien. Donc, je rappelle votre livre, Notre puissance de femme, un chemin de l'aube de la féminité à être en couple, hein, de Myriam Corneli, à découvrir, à lire, hein, je pense à lire surtout, hein, puisque oui. les femmes, même les hommes, hein, vont apprendre beaucoup de choses, comme on ne va pas dissocier les uns des autres.
Bah, ce livre, c'est un petit peu des fenêtres, en fait. D'accord. Chaque chapitre, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur un thème et on pourrait faire un livre de chaque fenêtre. D'accord. Et donc, en parler pendant des heures. Voilà. Après ce livre, il faut savoir que c'est moi qui le vends. Actuellement, il n'est plus vendu en dehors. Peut-être qu'il y aura à nouveau des librairies qui seront en lien avec moi pour le vendre, mais actuellement, c'est disponible sur la boutique d'Engrais Vert.
Alors, donnez-moi votre adresse, en fait.
Alors, c'est boutique.jardinonsolvivant.fr. Voilà, d'accord. C'est l'adresse. Boutique.jardinonsolvivant, tout attaché, .fr. Voilà.
Et là, on a également Myriam, alors.
Oui, alors c'est Myriam qui gère la boutique. Voilà.
C'est Myriam qui gère la boutique.
Voilà. En fait, à l'origine, c'est moi qui l'avais créé en 2020 quand tout s'était arrêté. Moi, je donne surtout des formations tout ça, c'est tout le monde de la formation s'était arrêté brutalement en mars 2020, hein, souvenons-nous. Et donc, du coup, j'avais cherché d'autres manières de pouvoir continuer mon activité. Et effectivement, j'avais lancé cette activité de vente de semences. Et donc, c'est moi qui l'ai géré en embauchant Myriam pendant plusieurs années. Et puis, je fais partie d'une coopérative qui ne voulait pas que je continue cette activité-là. Et donc là, Myriam, depuis l'année dernière, l'a reprise à son compte, à son nom.
Alors, sur le tour de la plaisanterie, hein, on sait que c'est toujours les femmes qui tiennent la boutique. Hein.
Voilà.
Et c'est toujours une histoire de petites graines, que ce soit des bébés humains ou des plantes.
Vous avez raison. Mais écoutez, merci à tous les deux. C'était très sympa de vous rencontrer. Et puis, on voit que... Il y a des gens quand même qui agissent autrement. On est dans un monde où tout le monde court. On ne sait pas après quoi, mais bon, se poser un petit peu, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ben, merci à tous les deux et à bientôt.
Merci
pour un
beaucoup.
Nouveau livre, peut-être. J'ai pas demandé merci. Ça.
Il n'y a pas d'autres projets. Il n'y a pas de projet formalisé pour l'instant.
Myriam, un autre aussi, non?
Ouais, on en a un dans le tiroir, mais il dort depuis longtemps. J'aimerais d'abord mettre en avant celui-là.
D'accord.
Avant. Sur d'accord. Un sujet qui n'a rien à voir, donc on verra bien.
D'accord. Alors bon, on va terminer en chanson. Alors j'ai choisi cette chanson qui parle des femmes, bien sûr, et des femmes libérées, parce qu'il y en a qui ne sont pas. Donc c'est Cookie Dingler, femmes libérées. Et merci à tous les deux d'être venus. Et puis j'espère que vos livres vont se vendre encore beaucoup plus, quoi. Merci.
Et merci pour l'invitation.
Chaque fois qu'elle sort, même dans elle. fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile de la laisser tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile.
Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle fait changer une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps.
Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non. Pas si facile de la laisser tomber. Elle est si fragile, être une femme.